En fait, c'est pas si facile que ça de raconter des histoires à la radio.
Non.
Alors, je vais vous raconter une histoire passionnante.
Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.
Eh bien, cette histoire est fausse.
Puis le passé, c'est le passé, j'aime pas reparler.
Tu parles d'une connerie.
Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Tu parles d'une histoire.
Bonjour à tous et bisous sur vos crânes.
Show me what it looks like to run like a girl.
La chronique du jour part en Angleterre, ce qui est toujours courageux, au lendemain de Noël 1920. Il fait pas chaud, il fait pas beau, et pourtant, la foule se presse sur les gradins du Goodison Park, l'un des plus grands stades de Liverpool. Si je vous demande quel sport peut réunir 53 000 personnes dans une enceinte glaciale, il y a des chances pour que vous pensiez au foot, il y en a moins pour que vous pensiez au foot féminin. Et pourtant, la foule qui se gèle les miches est bien là pour applaudir deux équipes de ladies, dont pas une ne laisse sa part au chien quand il s'agit de récupérer le cuir dans les jambes de l'adversaire. Une joueuse surtout fait se lever le public, une grande brune d'1m80 qui fait des ravages sur son aile gauche. C'est encore une gamine pourtant, une adolescente de 15 ans, mais sa frappe de mule fait déjà flipper tous les gardiens d'Angleterre. Lily part. Lily, ou plutôt Liliane, est née en 1905 et très tôt, elle a bien fait comprendre à tout le monde qu'elle n'avait pas franchement l'intention de faire des choses convenables pour une jeune fille, comme la couture, le ménage ou la cuisine. Non, son truc à Lily, c'est de traîner avec ses frangins pour s'écorcher les genoux sur tous les terrains vagues de la ville en tapant dans un ballon de fortune. Enfin, en tapant intelligemment dans un ballon si intelligemment qu'elle finit par taper dans l'œil de l'entraîneur d'un club féminin, le Dick Kerr Ladies, le DKL, une institution créée et financée par un fabricant de munitions, la Dick Kerr Company. Autant vous dire que les affaires ont été plutôt bonnes pendant la guerre. La plupart des joueuses y travaillent la semaine, et le week-end, elles se font quelques shillings de plus en disputant des matchs contre des équipes féminines ou masculines. Et le public répond présent, le foot féminin déplace les foules. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé pour le foot, ce qui s'est passé dans toute la société. Pendant que la moitié des hommes du pays se faisaient trouer la peau en France, les femmes ont pris la place. Quand Lily part, arrive au DKL, la guerre est finie depuis 2 ans, mais le club organise toujours autant de matchs pour des opérations de charité. Par exemple, pour aider les blessés de guerre, trop abîmés pour trouver du boulot. L'équipe est au top niveau, les filles ont leur propre terrain, elles jouent en short et taillent des croupières à leurs adversaires. Lily y est pour beaucoup, c'est une joueuse magnifique, solide, à la fois altruiste et excellente finisseuse. À la fin de sa première saison, elle affiche déjà 49 buts au compteur. Et puis voilà qu'en 1921, ça commence à ronfler. Aux yeux de la Fédé, les filles du DKL sont un peu trop proches du monde ouvrier et défendent un peu trop les droits des cols bleus. À ça s'ajoute un poil de paternalisme, un poil de la taille d'un baobab. Le message, c'est que la guerre est finie, les hommes sont de retour, merci pour tout mesdames, il est temps de revenir à vos fourneaux. J'exagère à peine, une star du cricket, Robert Miles, intervient dans le débat et lâche « Le vrai sport de la femme, c'est la maternité. »
C'est cela, oui.
À Paris, le créateur du Tour de France, Henri Desgranges, fait passer le même message. Que les jeunes filles fassent du sport entre elles, dans un terrain clos, inaccessible au public, d'accord, mais qu'elles se donnent en spectacle, qu'elles osent même courir après un ballon dans une prairie qui n'est pas entourée de murs épais, voilà qui est intolérable. Intolérable, effectivement. En décembre 1921, la Fédération anglaise découvre subitement que le football n'est pas adapté aux femmes et leur interdit les terrains. Pour leur bien, évidemment. Dans les années qui suivent, le foot féminin s'effondre. Lily, la semaine, travaille comme infirmière, une parmi tant d'autres. Enfin, presque. D'abord parce qu'à l'hôpital, Lily croise une collègue, Mary. Les deux femmes tombent amoureuses. Et à une époque où l'Angleterre met encore les homosexuels en tôle, vivent ensemble ouvertement. Ensuite, parce que côté terrain, Lily n'arrêtera jamais de jouer, et tant pis pour les applaudissements ou la célébrité. Mais le dimanche, on trouve toujours une pelouse, deux cages, un ballon, et puis le jeu. Ce pur plaisir du jeu. À 45 ans, quand Lily raccroche les crampons, elle a plus de 900 buts au compteur. Avant que cette grosse fumeuse ne finisse par mourir d'un cancer en 1978, Lily aura eu le temps de voir à nouveau les femmes autorisées à jouer au foot, 50 ans après s'être fait renvoyer au vestiaire. En 2002, on a même gravé son nom sur le Hall of Fame du musée britannique du football. Dieu sait ce que Lily en penserait, mais si elle était encore en vie, elle serait sûrement dans les gradins cet été quand l'Angleterre viendra à jouer la Coupe du Monde féminine en France. C'est déjà la 8e. Les choses bougent, et ça prouve une chose, il y a toujours des Lily pour se faire des passes sur des terrains vagues ou ailleurs. Comme disait Terry Pratchett, L'histoire a toujours quelques tours dans son sac. Après tout, elle est là depuis longtemps.